Bienvenue à la série Le Monde Change, une série d'interviews, de reportages, de rencontres et de découvertes avec des gens d'ici, des proches qui témoignent des réalités d'ici et maintenant. Cette série est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. L'un des enjeux que les régions ont relevé est l'accueil des nouveaux arrivants. La sensibilisation, l'information auprès de la population, de même que la préparation du milieu, est souvent déterminant pour un choix positif. Une ouverture à la diversité culturelle peut permettre à la région d'être aussi plus attractive, tout en se respectant. Franck Roimeau travaille au Carrefour Jeunesse Emploi des Îles. Il est parmi nous depuis un an. Il nous partage ses origines, son parcours et ses rêves.
Burundi, c'est un petit pays d'Afrique qui se trouve vraiment, je dirais, au centre, mais il est considéré comme un pays de l'Afrique de l'Est. Il est frontalier, au fait, avec le Rwanda, la République démocratique du Congo, donc la RDC, et la Tanzanie. Donc, ça fait 10 ans que j'ai quitté le Burundi. J'ai grandi 16 ans au Burundi pour ensuite venir ici au Canada. D'abord tout seul, puis ensuite mes parents m'ont rejoint. J'ai pris l'avion, j'étais tout seul. C'était un peu intimidant de prendre l'avion, de partir du Burundi, puis ensuite se diriger vers une destination un peu inconnue, mais en même temps, c'est un peu excitant aussi de dire « Ok, maintenant je pars ». C'est un peu triste dans un certain sens parce que j'ai laissé tout, toute ma vie, mes amis, tout ce que j'avais vécu dans ma vie, mais en même temps, c'était excitant. Le Canada ou aussi les États-Unis, l'Amérique... Vivre un rêve, d'aller voir des tours qui sont incroyables.
Ce petit pays d'Afrique a vécu des périodes vraiment moins faciles. Il faut rappeler que son économie repose principalement sur l'agriculture et l'élevage.
Le Burundi, c'est un pays qui a connu quand même des crises politiques pendant des longues, longues années. J'ai grandi en voyant la guerre. À un moment donné, ça s'est stabilisé à peu près dans les années 2005, je dirais. 2012, on commence à sentir que c'est en train de basculer sur une pente vraiment glissante. Puis le résultat, c'est qu'en 2015, c'était la crise. Beaucoup de Burundais qui ont dû quitter le Burundi, qui ont dû aller vers des destinations frontalières, mais aussi vers l'extérieur, le Canada. Maintenant, j'ai regardé le recensement, quand même pas mal de Burundais. Surtout, je dirais, dans la ville d'Ottawa. On est considéré maintenant comme une des nationalités qui est vraiment représentée dans la ville d'Ottawa. J'ai quitté le Burundi en grande partie à cause justement de cette situation que mes parents voyaient venir. Au départ, c'était moi qui devais partir. Et quelques mois après, voilà. On est une famille de quatre. Il y en avait déjà qui étaient déjà ici et puis il y en a d'autres qui sont allés ailleurs. Ma langue maternelle, c'est le Kirundi. Je suis venu ici au Québec surtout parce que si mon frère, mon grand frère, il était déjà ici. J'étais déjà francophone. C'était une bonne raison de partir et aussi de pas partir vraiment vers une destination inconnue parce qu'on avait déjà quelqu'un qui était ici. D'avoir quelqu'un qui connaît un peu déjà la culture, qui connaît un peu comment ça se passe ici et qui va un peu me diriger dès mon arrivée. Les cousins, les cousines, il y en a qui sont partis dans les pays qui sont à côté, il y en a qui sont partis en Europe. C'est vraiment avec les moyens que vous avez. Ça comprend aussi de partir avec une famille au complète, ça veut dire de faire des sacrifices. Il y a financier, mais aussi le fait de tout laisser, donc la maison et la vie qu'on a là-bas. On ne peut même pas prendre tout avec dans nos valises. Hein. Puis, il y en a d'autres qui ont des chemins assez difficiles. Des personnes qui font des voyages très dangereux, mais qui n'ont pas vraiment le choix de prendre des routes inconnues, de devoir payer à des personnes qui peuvent leur demander beaucoup d'argent, mais qui peuvent leur donner des chemins assez étranges. Dans mon cas, je dirais que quand même, j'ai été assez chanceux d'avoir ce confort-là, de partir du Burundi pour avoir une destination directe. Et puis disons que mes parents étaient beaucoup impliqués, mon père était beaucoup impliqué dans l'humanitaire, ça a un peu facilité les choses.
Ton père et ta mère occupaient quel emploi?
Mon père, il a créé des associations pour venir en aide aux enfants de la rue. La conséquence des guerres, c'est que beaucoup d'enfants qui deviennent orphelins, ils perdent leurs parents, ces enfants étaient laissés à eux-mêmes. Et avec ses collègues, ils ont décidé de créer une association qui allait leur donner premièrement un toit. Ils dormaient dans les rues. On essaie de leur donner une éducation, de les ramener à l'école, de sensibiliser la population. Et ensuite, après, c'est créer des centres de formation qui peuvent peut-être les, tu sais, des fois, c'est des enfants qui sont assez âgés, qui ne peuvent plus vraiment retourner sur les bancs d'école, mais donner au moins une formation qui peuvent les amener sur le marché du travail. Et ensuite, quand il a commencé à évoluer dans son travail, il a remarqué que, oui, il y avait les enfants de la rue, mais aussi, avec les enfants de la rue, il y avait des enfants atteints du VIH-SIDA, qui, eux, avaient aussi des problématiques. Le fait qu'ils avaient le VIH-SIDA, c'est aussi une autre problématique. Et ce n'est pas des problématiques qu'on peut vraiment traiter avec les autres enfants. Donc, il a créé une autre association. Après ça, il a créé une autre association pour les droits des enfants. Puis ma mère, elle a travaillé dans l'agence d'édouanement, pardon. Tout ce qui est import, export, tout ce qui arrive à l'aéroport, au port, c'était ça leur travail.
On fait maintenant un grand saut. Arrivé au Canada, tu as 16 ans.
Je devais finir mon secondaire. Quand je suis arrivé, j'étais à Montréal. Puis ensuite, mes parents sont arrivés, puis ils n'aimaient pas trop Montréal. Ils ont dit qu'ils voulaient aller à Québec. J'ai dû les suivre. J'ai commencé mon école secondaire à Rochebelle. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, j'arrive dans une école, je connais personne. Comment je vais faire pour m'intégrer? Mon frère, lui, m'avait proposé, essaie quelque chose de nouveau. Essaie quelque chose que les gens apprécient. J'aime le sport. Si je voulais connecter avec quelque chose, c'était un sport. On m'a parlé du football, le football américain. Ben, je connaissais le football, mais dans les films, je savais aucune règle. Et je savais que c'était différent. Moi, j'ai toujours joué au soccer. Il y avait beaucoup plus de contact physique. Porter un casque, porter tout ça, c'est tout était nouveau. Quelqu'un est venu un jour m'interpeller aux premières journées de l'école. Toi, je pense que tu devrais venir jouer dans notre équipe. Et puis là, je me suis dit, bah, ok, pourquoi pas. Je suis parti pour essayer. C'était difficile, c'était compliqué. Je n'ai pas aimé ça du tout. Mais je savais que si je continuais à persévérer et si je continuais aussi à comprendre c'est quoi le jeu derrière tout ça, eh bien peut-être que j'allais finalement comprendre et aimer ce jeu-là. C'est vraiment à cause de persévérer, de comprendre qu'est-ce qui se passait, que j'ai vraiment aimé ce sport-là, qui m'a permis aussi de vite m'intégrer. Je pense que le lendemain de ma pratique, je connaissais 50 personnes déjà. C'était rapide, donc je ne pouvais plus rester dans mon coin. Donc j'ai continué au secondaire, puis ensuite arrivé le cégep, continué à jouer au foot. Donc j'ai été recruté le cégep Garneau, les Élans. J'étais très content parce que je partais de rien et là j'allais jouer pour le cégep de Garneau, qui est une équipe de première division. Sauf que ma première année a été assez difficile parce que je suis arrivé au cégep, j'ai eu un appel au tout début. Il faut que tu viennes à la direction, là, on doit te parler. Et là, ben, ils m'ont dit, écoute, est-ce que tu as ton permis d'études? Moi, j'ai dit, mais quel permis d'études? Il me semble, moi, j'étais au secondaire, j'ai jamais eu besoin des permis d'études. Ils me disent, ben non, en fait, quand tu arrives à l'école après le secondaire, il faut que tu demandes un permis d'études. Moi, je ne savais pas comment je dois faire, quelles sont les procédures. Puis ils m'ont dit, ben, écoute, ça va te prendre au moins 6 mois. Ce qui voulait dire, ben, il fallait que j'annule ma session, que j'arrête tout, que j'arrête le football, que j'aille plus en cours. Ça a été une grosse déception pour vrai. Ça a été dur quand on m'a dit ça. J'arrivais pas à comprendre pourquoi on m'avait pas dit ça à l'avance parce que j'aurais fait les démarches qu'il fallait. Ça a été un choc.
Et ça a duré combien de temps?
Ben, ça a duré en fait une année. Si vous voulez, vous pouvez peut-être venir sans votre permis d'études, mais si vous venez, vous allez être considéré comme un étudiant étranger et j'allais devoir payer des frais. Et là, je ne vais pas vous dire la facture là. Non, c'est incroyable, je ne peux pas payer cette somme-là. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. Moi, c'est hors de portée pour moi. J'ai commencé à travailler pour mon premier emploi au Tim Hortons. Ça a été une bonne expérience où est-ce que j'ai découvert le monde professionnel.
Aimes-tu les beignes?
Je les ai tellement aimés que après 6 mois, vous aurez vu la personne, la première journée que j'ai commencé mon travail et la dernière journée, j'avais pris du poids. Oh mon Dieu, c'était incroyable.
Quelle est la meilleure beigne?
J'aimais beaucoup le crème Boston.
Alors, ça a duré un an, ton travail chez Tim?
À peu près 6 mois, je changeais d'emploi, je suis allé dans l'entretien ménager. Des fois, je travaillais aussi au cégep. Puis des fois, ben, moi, ça me dérangeait pas parce que je pouvais voir les gars avec qui je jouais, on saluait et tout.
Puis tu pouvais pas jouer.
Ah, ça, c'est... Non, ça, c'était très cruel.
On va faire une pause. Tu as choisi une première chanson. Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi?
Petit pays. Ça a été écrit et composé par Gaël Faye. Il est métis. Son père, il est français. Sa mère est rwandaise. Mais lui, il a grandi au Burundi. Et il a écrit « Petit pays » pour le Burundi et le Rwanda parce que les deux sont considérés comme deux petits pays. Ça réveille en moi mon identité, de choses que j'ai connues. Le refrain, il dit, je vais le dire en kirundi, c'est « Gahugu gatoni, gahugu kaninina ». Ça veut dire « petit pays, grand pays ». Tu as été froissé, mais tu n'es pas mort. Tu as souffert, mais la souffrance ne t'a pas abattu. Je pense que ça représente beaucoup le Burundi et tous les Burundais.
Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka, gahugu gatoyi.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka. Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka. Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, si t'aimant un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure, quand tu ris, je ris, quand tu meurs, je meurs, quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Gahugu gatoyi,
je t'aime,
gahugu kaniniya,
ça j'en suis sûr.
Warapfunywe niwapfuye, waragowe niwagoka. Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya. Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya.
On est de retour avec Franck Roimeau. Pour les nouveaux arrivants d'origine africaine, souvent l'un des défis qu'ils doivent rencontrer, c'est le climat.
Les deux premiers hivers très rough, désolé mon anglicisme, mais très très difficile. Je ne trouve aucune activité qui pourrait me plaire en hiver. Je ne sais pas patiner. Les gens me parlent d'aller faire du ski, mais moi ça ne me parle pas du tout le ski. J'ai comme l'impression que j'allais me briser quelque chose. Donc oui, ça a été difficile, mais beaucoup plus difficile. Pas pour moi, je dirais, mais beaucoup plus pour mes parents, les personnes âgées qui, eux, je pense, c'est vraiment difficile. Hein. C'est déjà que eux, ils arrivent beaucoup plus âgés, ils sont très habitués à la chaleur. Et moi, je parlais de mon père qui a beaucoup voyagé, mais il n'avait jamais vécu un hiver au Canada. C'est lui, l'hiver, il avait vécu en Europe. Non, la neige. En tout cas, à Bujumbura, la capitale du Burundi, où est-ce que moi j'habitais, c'était sec, c'était pas humide. Quand il faisait froid, je me rappelle, je pense que ça tournait à 18 degrés. Hein. Donc d'arriver à zéro, c'est un choc. Arriver à moins 40, là, ça devient extrême.
Pas facile. Revenons à ton parcours. Est-ce que tu as décidé de poursuivre tes études?
Alors, université, je déménage vers Montréal. Je suis arrivé au Canada, je suis arrivé à Montréal et j'avais goûté un peu à la vie.
La frénésie de la vie.
Ouais, c'est ça. Ça bouge. J'ai commencé mon université à l'UQAM, en sciences politiques. Mais aussi, je voulais vraiment continuer à améliorer mon espagnol, mon anglais, améliorer mon français, apprendre d'autres langues, améliorer aussi même le kirundi, lire un peu plus le swahili aussi. Mais aussi, il y avait autre chose qui m'intéressait, c'était les relations internationales. J'ai terminé l'année passée, en 2021. Donc, je fais partie, voilà, en 2020, avec la pandémie qui est arrivée, on a commencé à transférer vers le numérique. J'avais très hâte de terminer parce que ça changeait. C'était plus, j'aime beaucoup être en présentiel, avoir ce contact humain. J'ai terminé en 3 ans.
Tu es sorti avec un baccalauréat en sciences politiques.
En sciences politiques, mais le premier été que j'ai commencé à l'université, je suis allé à Toronto faire un programme qui s'appelle Explore pour apprendre l'anglais. L'année d'après, je suis allé faire un stage de coopération internationale en Équateur pour pratiquer mon espagnol.
Vraiment, Frank, tes intérêts sont multiples.
Les langues, la politique, les cultures.
Si tu veux, on va jouer à « Si tes amis étaient ici, qu'est-ce qu'ils diraient de toi? »
Mon Dieu. En fait, moi, j'ai une personne timide. Avec le temps, c'est beaucoup plus vers les gens. J'ai plus de l'aisance. C'est quelque chose que j'avais peut-être en tête, qui n'était pas vrai. Puis j'ai déconstruit ça. Et puis finalement, je me suis rendu compte que moi, j'aime aller vers les gens. J'aime aller parler avec les gens. J'aime découvrir. J'aime apprendre, voyager. Je suis quelqu'un aussi qui aime apporter une bonne humeur. Je suis quelqu'un qui veut toujours se concentrer sur le positif. Dans le négatif, j'essaie de voir le positif. Je suis quelqu'un aussi qui aime apporter une bonne ambiance, que ce soit convivial, pas forcer quelqu'un, mais que ce soit dans le respect.
Quelle position tu occupes au football?
J'ai commencé en tant qu'offensive lineman, donc sur la ligne offensive, puis ensuite j'ai changé pour la ligne défensive. Je me voyais beaucoup plus jouer sur cette position-là. J'ai eu un pic parce que j'étais à 260 livres, il y en a d'autres parce que j'étais à 200. Quand je jouais sur la ligne offensive, j'étais beaucoup plus imposant. Là. Je vivais de ça. mais mon sport, je dirais naturel, c'est le soccer. C'est après plutôt que j'ai changé pour le football d'ici. Ça me passionne. Pour moi, c'est un dimanche ou un samedi. Sans regarder du foot, que ce soit le football ou le foot soccer, c'est pas un week-end normal. Il y a le fait de le regarder, d'analyser tout ça, mais aussi le fait de le faire. Pour moi, en fait, qui est beaucoup plus important, à mon point de vue, que de le regarder, ça, d'accord, c'est important, mais le faire, pour moi, ça m'apporte un bien-être vraiment particulier. En fait, j'ai pas une autre alternative que je pourrais dire qui m'apporte une telle sensation. Quand je fais du sport, après, avant, pour moi, c'est incroyable. Il y a rien qui peut venir après ça, quoi. Tu te sens libre dans mentalement, c'est le dépassement de soi aussi, c'est la discipline, c'est aussi l'organisation. Hein. Des fois, on se demande à quel moment je vais le faire. Est-ce que je vais le faire, en fait? Tu as envie, mais finalement, tu ne le fais pas.
Et dans ta génération, il y a quand même beaucoup de bidules, il y a quand même beaucoup d'appareils informatiques qui, mm-hmm. qui vous trimballent partout.
Absolument, oui, oui.
Votre
oui.
fameux cellulaire, vous êtes toujours penché là-dessus.
Hey, mon...
C'est bien d'entendre parler du sport. Est-ce que tu réussis à aller chercher des jeunes ou est-ce que tu t'intéresses à la jeunesse qui est... Je me rappelle pas la journée où j'ai vu un enfant jouer dehors.
C'est vraiment très problématique. Tout ce qui est du téléphone ou ainsi de suite, moi, je sais que ça peut être vraiment très néfaste. C'est rentré dans notre vie, au fait. Et ça peut nous manipuler d'une certaine façon. Moi, je pense que le plus important en ce moment, c'est vraiment d'essayer de l'utiliser d'une bonne façon. Quand tu as ton téléphone dans les mains, quand tu zappes, ça peut te faire perdre beaucoup de temps. Ça peut entraîner beaucoup de... C'est même prouvé que ça apporte beaucoup d'anxiété pour les jeunes. Mais... Le téléphone en tant que tel, il y a aussi des choses qui peuvent être intéressantes. Genre, moi, quand je vais sur mon téléphone, je sais télécharger des applications qui peuvent me permettre, par exemple, de dire, OK, tu mets ton chronomètre et c'est le temps de travailler. Et tant que le téléphone ne t'a pas dit, OK, c'est le temps de prendre une pause, il faut que tu te concentres là. Il y a des applications qui peuvent apporter des changements positifs dans la vie des jeunes, mais aussi pour les autres aussi, parce que moi, ce que je vois, c'est que c'est plus seulement les jeunes, mais je regarde mes parents, puis je dis, mais... En tant que tel, la technologie, c'est en fait, il faut vraiment l'utiliser. C'est un fil qui peut être intéressant pour certaines choses et qui peuvent nuire aussi d'une certaine façon. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment éduquer. Il faut vraiment qu'on prenne le temps d'éduquer nos jeunes, de les utiliser efficacement, puis que ça ne vienne pas nuire pour la suite. On est quasiment avec un téléphone maintenant. Donc, c'est sûr que moi, ma génération, puis la génération qui vient après moi, c'est même plus les mêmes. C'est vraiment une bonne question, parce que moi, ça me préoccupe aussi, ces enjeux-là de la jeunesse. Je veux que notre génération apporte un impact positif. Les technologies, oui, mais comment? Il faut vraiment y réfléchir.
Un sujet à développement. Franck, pourquoi tu as opté pour les îles de la Madeleine?
Je trouve que c'est une belle histoire. En premier, je ne connaissais pas les îles. Jamais depuis que j'étais arrivé au Québec, on m'avait parlé ou j'avais vu sur la map que les îles, ça existe. Et un jour, j'étais avec mes collègues de travail. On se disait, quels seront nos plans pour la suite? Puis moi, je disais, ben écoutez, moi, j'aimerais bien partir ailleurs. J'aimais bien Montréal, mais je voulais voir autre chose au Canada ou au Québec. J'aimerais bien aller dans l'Ouest. Puis il y a notre collègue qui me dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien partir quelque part au Québec, à côté de l'océan. » Mon autre collègue, il a dit « Est-ce que t'es déjà allé en Gaspésie ?» Il a dit « Ouais, je suis déjà allé, mais j'aimerais aller ailleurs. » Et il a dit « Les îles de la Madeleine. » Et il a commencé à parler des îles de la Madeleine. Et là, j'ai entendu les îles. Quelles îles ? Il me parlait de plage, il me parlait de que les gens étaient super accueillants, acadiens. Ça a piqué ma curiosité directement. Je suis allé googler les îles de la Madeleine. J'étais charmé en regardant les photos. Hein. Je pense que n'importe qui pourrait être charmé. J'étais en fin de parcours universitaire. Je me suis dit, bon, je pense que je vais me payer mon voyage pour venir aux îles. Et finalement, en faisant mes recherches, j'ai trouvé que c'était très difficile de trouver un logement, pendant l'été. Je me suis rendu compte que tout était déjà presque terminé. Il n'y avait plus de place. Mais bon, je pense que ce sera pour une autre fois. Mais je vais venir aux îles. À un certain moment, j'ai commencé à chercher un emploi. Donc, je venais de terminer l'université. J'avais toujours gardé aussi en tête que je veux aller vivre une expérience ailleurs. Je veux aussi aller vivre un choc culturel. Et en faisant ma recherche, un jour, je suis tombé sur une offre d'emploi, Place aux jeunes. C'est une plateforme qui permet à des jeunes de partir en région. Je fais une recherche, ils me demandent dans quelle région tu as envie de partir. Premier résultat que j'ai, c'est l'emploi que j'occupe en ce moment. Et j'ai appelé directement Carrefour. Moi, j'ai envie de venir travailler au Carrefour. Rappelez-moi, je vous envoie mon CV. Et vraiment, la suite des choses a fait que c'est une suite des choses qui était vraiment comme parfait. On m'a offert de venir ici. J'arrive ici aux îles. Je découvre ces îles. C'est incroyable. Les paysages sublimes. Je découvre aussi les gens avec qui je vais travailler. Et là, c'est vraiment... Pour moi, c'était très important d'établir ce contact et aussi de... Je connaissais pas où est-ce que je m'en allais, donc on a quelques inquiétudes. Et puis, j'avais l'impression, en fait, qu'on avait beaucoup de choses en commun, on avait la même vision, beaucoup de valeurs en commun. Une équipe qui est professionnelle, qui avait du potentiel. Pour moi, je sentais que j'avais une bonne place ici. Et aussi, vraiment, le côté humain, qui était très important. Je l'ai ressenti dès le départ.
Chaque région a ses défis. Quels sont ceux que tu as perçus jusqu'à maintenant?
C'est compliqué d'avoir un logement ici. Arrivant ici, je l'ai vu parce qu'il n'y avait pas de logement à l'année. c'était compliqué ça. Puis ensuite, il y avait des logements qui pouvaient m'accueillir pour quelques mois, mais ça, j'étais comme, ah, tu sais, après, est-ce que c'est abordable? Est-ce que j'ai envie de tout le temps de déménager? Je passe 3 jours à chercher, je trouve rien. Là, on est découragé, ben on s'est dit, bon, tu vas repartir et on va continuer la recherche pour toi. Et là, en rentrant, on s'est dit, bon, on va passer au IGA, à la coop. On arrive à la caisse avec une personne qui était mon guide, en fait. Et elle a commencé à parler avec une personne. Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu fais ici? T'es qui, toi? Puis moi, j'ai dit, je me suis présenté. Elle m'a dit, mais moi, j'ai peut-être quelque chose pour toi. J'ai une chambre à louer à l'année. On va voir. Je le trouve comme ça, à l'épicerie.
C'est peut-être l'une des différences supplémentaires que l'on a à vivre en tant qu'insulaire.
Vivre sur une île, c'est assez particulier. C'est vraiment ça qui m'intéressait de connaître ces réalités-là. C'est, je pense, la première chose qui m'intéressait. Je ne me cacherai pas, moi, je fais partie de la minorité visible. Je suis afro-descendant. Donc, moi, je vois ça des fois comme une opportunité d'en parler, d'ouvrir aussi des portes, de faire découvrir. Et c'est aussi une pression. Hein. C'est difficile de se fondre dans la masse parce que, voilà, on sait. Ce serait bien qu'un jour, aux îles, ça soit beaucoup plus diversifié. Le plus important, ce sera, au fait, qu'il y ait du travail pour accueillir, pour sensibiliser, pour aussi promouvoir vraiment le vivre ensemble. Quand je suis arrivé ici, donc je me suis retrouvé un peu seul. Et je pense que déjà ici, les gens, ils se rassemblent souvent en famille, entre amis. Ça, c'est vraiment très typique. Inviter quelqu'un dans ce genre de contexte-là, dans ce genre d'événement, la personne va se sentir dans le groupe. Elle a envie de faire partie de ce groupe. Ça va être un geste très apprécié. Peu importe. Hein. Ça me rappelle aussi un peu la chance que j'ai d'être ici, aux îles, d'avoir la paix, d'avoir un travail, d'avoir beaucoup de ressources, de choses qui m'ont permis de grandir aussi en tant que personne. Et c'est ces moments-là, au fait, qui me rappellent à quel point c'est « wow ».
Frank, tu as choisi une dernière chanson que tu apprécies particulièrement.
Redemption Song, c'est une chanson qui a été écrite par Bob Marley. Quand il a été diagnostiqué du cancer, ça a été sa dernière chanson pour dire que j'espère apportera la liberté pour les personnes qui se sentent oppressées, en fait. Oppressées par les systèmes coloniaux qui ont permis à ce que les gens, ils ont gardé des esprits... corrompus, je dirais. Ils ont oublié un peu quelle est leur histoire, d'où est-ce qu'ils viennent. Et c'est une invitation pour la liberté.
cœur ou un mot, il y a certainement des moments où on s'ennuie de chez soi, de nos racines.
Comment ça vit là-bas? C'est incroyable à quel point c'est différent, au fait. Les gens là-bas, ils vivent beaucoup, même... Beaucoup de gens peuvent être pauvres, ils vivent dans la misère, j'ai comme l'impression qu'ils ont envie de vivre la vie. Ils ont envie de danser, ils ont envie de célébrer la vie, ils ont envie de... Ça, c'est comme quelque chose que je trouvais remarquable, de mettre de côté un côté un peu misérable, mais aussi de garder ce côté positif, de dire, on va quand même célébrer la vie. Il y a d'autres choses qu'on a aussi, on peut ressortir. Je vous invite à aller voir les tambours du Burundi. Vous allez voir à quel point ça vit, c'est incroyable. Les gens, ils sont dynamiques, ils sautent partout, c'est incroyable. Ce que j'ai beaucoup aimé ici aux îles, c'est retrouver un peu le collectif, un peu moins dans l'individualité. Une des choses qui a vraiment penché dans la balance pour dire que j'arrive aux îles, c'est le collectif. Voir à quel point les gens peuvent être solidaires entre eux.
Le temps passe très vite, Franck, en terminant. La Coupe du Monde aura lieu sous peu. 20 novembre, ça débute au Qatar. La meilleure équipe de soccer, selon toi, c'est le Real Madrid, l'Espagne. Pourquoi?
C'est la meilleure équipe d'Europe. Elle a gagné le plus de titres d'Europe au niveau de l'Espagne. Elle a toujours eu dans son effectif les meilleurs joueurs sur son terrain. Elle joue un jeu toujours spectaculaire. Elle veut toujours sortir un peu. Elle veut toujours montrer qu'elle se place plus haut que les autres. Son histoire est grandiose. Quand j'ai commencé à être un fan, les joueurs qui jouaient dans cette équipe-là, The Dream Team, l'équipe de rêve, c'est avoir les meilleurs joueurs dans la même équipe. C'est juste incroyable de grandir en regardant tout ça.
Et le meilleur joueur?
Chaque année, il y a un ballon d'or qui est attribué au meilleur joueur. Et cette année, ça a été assez particulier parce que ça a été un joueur que j'admire beaucoup, en fait, qui justement, je trouve, représente tout pour un bon footballeur. Quelqu'un qui met beaucoup devant le collectif, qui est toujours patient, qui montre un leadership très positif, qui a aussi connu aussi une histoire vraiment controversée. En fait, il jouait pour la France et on avait décidé de ne plus le sélectionner. Mais maintenant, c'est considéré comme le meilleur joueur et c'est Karim Benzema.
Franck Roimeau, merci d'avoir accepté l'invitation et bonne continuation.
J'ai passé vraiment un très très bon moment, très apprécié et très agréable.
Merci à vous d'avoir été là. Ici Michel Landry qui vous donne rendez-vous pour un autre chapitre sur les nouveaux arrivants dans la série Le Monde Change.